L'argent mange. Des sauts de création. Chapitre 20. L'aide ministérielle à la production allège les fins de mois des radios. 1987-1991.
La commission de réflexion sur l'avenir de l'audiovisuel, mise en place par le ministre Philippe Moreau en 1984, ancêtre du futur Conseil supérieur de l'audiovisuel, confirme que le gouvernement de la communauté française n'a pas l'intention d'aider structurellement les radios libres. Mais elle suggère de prélever une part des recettes publicitaires des radios commerciales qui serviraient de caisse de compensation pour aider les radios non commerciales. En 1986, Philippe Monfils ayant succédé à Philippe Moreau, Guy Stukens se souvient que quelques membres du premier Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient dégoûtés par le fait qu'on ne parle de radio ou des autres médias qu'en termes de rentabilité économique.
Un petit nombre de gens se sont dit « c'est pas possible qu'on continue comme ça ». Et donc, ils n'étaient pas très nombreux. Hein. Il y avait le représentant de la LO, celui de la Fédération Socialiste, la FRE. Il y avait la représentante de la SABAM, le représentant de la SACD, un représentant de la RTBF, et c'était à peu près tout. C'était à peu près tout ce qu'on a trouvé comme personne intéressée au contenu de la radio et aussi aux possibilités offertes par ce média, qui sont, à mon sens en tout cas, qui n'ont jamais été explorées à fond. On se dit, c'est quand même pas possible de laisser les choses comme ça. Et il faut qu'on impose ou qu'on trouve un moyen de faire passer cette idée d'un fonds semblable à celui des Français pour amener de l'argent dans les radios pour faire de la production. Il faut dire qu'au début, notre idée n'était d'ailleurs pas uniquement de faire de la production. Il nous semblait aussi intéressant de faire de la diffusion, d'organiser la diffusion pour faire entendre à l'étranger ce qui se fabriquait chez nous.
En France, un fonds de soutien à l'expression radiophonique FSER existe depuis le 16 septembre 1983.
Béatrice Bouillot.
Une large part du financement des radios associatives est assurée par le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est alimenté par une taxe sur les recettes publicitaires des grands médias audiovisuels, télé comprise.
Télé-radio, c'est ça ?
Oui, télé comprise. Chaque année, les radios associatives présentent un rapport d'activité et leur compte expertisé pour qu'il soit examiné par une commission dont la composition est fixée par un décret gouvernemental renouvelé tous les 5 ans après avis de la commission de l'Union européenne. Dans cette commission présidée par une personnalité indépendante, qui est M. Rapone, siègent des représentants de l'État, des représentants des régies publicitaires, un représentant du CSA et des représentants des radios associatives qui sont choisis par le ministère de tutelle sur des listes proposées par les fédérations de radio. Alors, les sommes reçues par les stations de radio varient de 20 000 et 350 000 francs et sont liées à 2 critères. Alors, faites vite le calcul, il me semble que c'est pas mal.
120 000 à 2 millions.
Voilà, de 20 000 à...
Environ 3 000 et 53 000 euros.
Alors, le premier critère est relatif au montant du budget de l'année précédente. On note une volonté de favoriser un certain financement local ou thématique, immigration, aménagement du territoire, etc. Le second, également prévu par le décret constitutif du FSER, est lié à la qualité des programmes et de l'implantation de la radio dans son environnement social et culturel. En fonction des comptes rendus annuels d'activités présentés par la radio, la commission du fonds de soutien tient compte des actions de formation engagées. Enfin bref, le critère de... En fait, c'est parfois ça paraît vache hein, pour des radios en France, mais il y a quand même ça de bien avec le FSER, c'est qu'ils encouragent les radios à se développer. C'est-à-dire qu'une radio qui a un bilan d'activité médiocre, qui montre pas qu'elle essaye elle-même de se débrouiller en demandant aussi des subventions d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire plus de choses, eh ben, cette radio-là, son montant qu'elle reçoit, de son allocation du FSER, eh ben, il ne sera pas augmenté. Il stagnera ou alors il baissera même. Tandis que si on fait des efforts, même pour s'équiper et tout ça, eh ben, on a plus, l'année d'après, on a plus d'argent et donc qui permet un peu de rembourser les dettes, quoi, si on s'est équipé. Alors, il faut dire aussi qu'on a le. Y a quand même, c'est la quasi-totalité de ce qui fait vivre les radios, le FSER. Mais il y a aussi, à côté de ça, le FAS, le Fonds d'aide sociale, qui aide pas mal. Le Fonds d'aide sociale, c'est aussi bien bon, d'autres associations peuvent recevoir ça. Le Fonds d'aide sociale, ça paraît inépuisable tellement ça donne d'argent à un peu tout le monde. À partir du moment où on fait des bonnes actions en présentant des bons dossiers avec le budget et tout ça qui est bien fait, quoi, on peut avoir facilement une aide du FAS. Et puis, il y a aussi ben, le ministère de la Jeunesse. Bon, il y a les villes.
Il y a eu 6 ans, vous avez réussi à avoir bénéficié de 600 emplois jeunes
donc, oui, absolument.
Dans le secteur radio, donc voilà. Qui était réservé au secteur radio libre.
Lequel... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez l'équivalent des emplois jeunes ici. Alors, les emplois jeunes, c'est le gouvernement qui aide les entreprises, les associations, etc., à pouvoir embaucher des salariés. Donc, il les aide financièrement. C'est-à-dire que sur un emploi jeune, il y a la radio qui paye tant, et puis il y a le gouvernement qui paye le reste. Et bon, à charge pour nous de les pousser à ce qu'ils se forment, de leur trouver des stages, etc. En général, on les a pour un an, c'est reconductible pendant 6 ans, je pense. Et ça peut aller, il y a des dérogations jusqu'à 30, 32 ans, hein, les emplois jeunes. Et ça, c'est ce qui nous permet maintenant d'avoir des salariés. Et puis, c'est vrai que la radio, on a changé un peu de niveau de vie là, depuis, par rapport à il y a quelques années. Mais on se bat, on continue de se battre. Là, l'aide à l'équipement, il y a encore quelques mois, c'était pas évident, quoi. Ça paraissait pas logique pour les gens du FSER, par le gouvernement. Eh ben, on les a poussés à ce qu'ils trouvent ça normal.
Et donc... ce fonds, l'idée, c'était simplement d'avoir un maximum de fric pour pouvoir ensuite le répartir de la façon la plus judicieuse possible et soutenir toute une série de projets intéressants en matière de radio. Et l'année suivante, il y a eu effectivement un appel à projet et une petite commission, qui est en fait des gens issus des radios, hein, et j'en faisais partie, et aussi une personne de la SABAM et une de la SACD, pour faire bonne mesure. Et qui choisissaient parmi les productions de leur père, ou les projets de leur père, ceux qui semblaient le plus intéressants. Le budget était très gras, ça faisait 1,4 million maximum à l'époque.
Soit 34 705 euros.
Mais enfin, c'était toujours mieux que rien. Et l'idée que nous avions, en se basant quand même sur le modèle français, c'était d'étendre cela et d'essayer d'avoir plus pour la production radio, parce que, évidemment, ça ne couvrait... C'était loin de couvrir toutes les émissions que nous, on aurait bien voulu produire grâce à ça.
L'aide ministérielle à la production fonctionne jusqu'en 1991.
De cette aide, Radio Panique obtient au total quelques 18 500 euros pour 16 projets acceptés.
Parce qu'il faut quand même dire que ce fonds a un grand mérite, c'est de nous permettre de produire des émissions que sinon on ne produirait pas. Et il a un deuxième mérite, mais c'est indirect, c'est de nous permettre de boucler notre budget annuel, parce que s'il n'y avait pas ce fonds, eh bien, il y a plusieurs radios qui seraient en faillite aujourd'hui, qui n'existeraient plus. Je le dis parce que c'est la réalité, c'est pas d'autre chose. Donc les gens produisent des émissions tout à fait gratuitement, et se font payer les heures par le ministère, et cet argent-là, ils le mettent à disposition de la radio pour pouvoir fonctionner. Donc bien sûr, déduction faite des frais de matériel, etc., engendrés par la production. Mais tous les frais de personnel, finalement, la plus grosse partie, en tout cas, va à la radio et permet à la radio de continuer à exister, de diffuser ses émissions.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Radio Panique du 6 décembre 1988.
Tant qu'il n'y aura pas de subsides réguliers de fonctionnement, la survie de la radio n'est envisageable qu'en prélevant une partie aussi grande que possible des subsides à la création.
Cette gestion implacable suppose une très forte adhésion à Radio Panique de la part d'animateurs bénévoles. Il faut saluer ceux qui jouent parfaitement le jeu de la solidarité en cette période. Laurence Brognier, John Bunens, Malika Hamza, Madeleine Anjoul, Noël Lambert, Philippe Lemoine, Philippe Livrau, Saïd Ounaoui, Patrick Verdrenk et Hendrik Verhoeken.
Panhygiénique.
Hendrik Verhoeken, La Passion du Christ, 1990, Radio Experimentalis, 1991.
Veux-tu expliquer la motivation et le contenu de ta réalisation, La Passion du Christ, et en particulier, c'est pas un peu New Age, cette réalisation?
À l'époque, c'était encore l'époque où je faisais des projets avec comme première motivation, c'était pour libérer de l'argent pour la radio, en fait, pour financer la radio. Donc tout l'argent était mis dans la caisse de la radio, sur demande de la radio aussi. Et quelque part, moi j'étais d'accord avec cette démarche-là. En fait, j'avais déjà fait un projet auparavant qui était accepté, malgré que je ne trouvais pas qu'il était tout à fait conforme le règlement que la communauté française avait établi. En fait, ils avaient fait un sort de règlement. Le projet devrait correspondre à certains critères, entre autres, mettre en avant les artistes de la communauté française, par exemple. Je me disais, je me fiche du règlement, je poussais de plus en plus dans un truc que j'ai vraiment envie de faire. Parce que pour au moins avoir un minimum de plaisir, parce que finalement, toutes les possibilités que le budget pouvait me donner étaient données à la radio. Donc finalement, je travaillais avec des moyens vraiment quelque part, je dis tiers monde quelque part, parce qu'à ce moment-là, la radio avait vraiment très peu de moyens au niveau technique. Quelque part, j'ai voulu prendre mon pied en proposant des projets vraiment qui me convenaient totalement. Et donc, ça, c'était un projet qui me convenait vraiment totalement au niveau des langues. J'ai mélangé toutes les langues, plusieurs langues. Ça m'intéressait de travailler avec plusieurs langues. Et au début, j'avais peur De proposer un truc comme ça. Moi, je disais, si c'est pas uniquement en français, ils vont jamais prendre.
Quel était le contenu de La Passion du Christ ?
C'était en fait une démarche. En fait, je faisais référence à plusieurs religions et plusieurs démarches spirituelles. Et c'était des trucs qui m'intéressaient. C'était au niveau de la religion chrétienne, ce qui m'intéressait, c'était les textes apocryphes. Tous les textes mystiques qui ne sont pas reconnus par l'Église comme des textes officiels, disons. Puis j'étais intéressé par le bouddhisme, par exemple, par les mystiques musulmans, donc le soufisme et tout ça. Hop, et tout ça, je mettais ensemble. Ça m'intéresse aussi de faire un tas avec tout ça, de créer ou de récréer ou dans ma tête ou dans ma vision des choses, une sorte d'approche mystique universelle. Hop, ça allait dedans. En plus, ça avait des trucs tout à fait fous parce que je mixais ça avec Diamanda Galas et tout ça. Donc c'était en même temps mystique et puis très fou, expérimental, et multilingue et tout ça en même temps. C'était la totale, quoi.
Thank you.
partir de 1989, l'étreinte se desserre. On concède que les animateurs dont les projets sont subsidiés soient exemptés du paiement de leurs cotisations d'animation pendant une certaine période. Le permanent est également incité à présenter et à réaliser des projets pendant son temps de travail rémunéré, tout profit pour la radio. En 1991, la réalisation du feuilleton Le Cercle Mauve exige de disposer d'un studio d'enregistrement extérieur, disponible en soirée et adapté à la captation des voix de multiples acteurs. Le Cercle Mauve est également la première réalisation à être montée et mixée par un ingénieur du son professionnel, Patrick Verdrenk.
Panégynique.
Marcel Aufler, Le Cercle Mauve, feuilleton radiophonique, 1990.
Il me baissera des baisers de sa bouche. Oui, tes étreintes sont meilleures que le vin.
La voix de mon amant, le voici, il vient. Il bondit sur les monts, il saute sur les collines. Il ressemble, mon amant, à la gazelle ou au fond des chevreuils.
Il monte sur la route, des petits enfants sortent de la ville et le persifent. Ils lui disent, monte, chauve. Et il se tourne derrière lui, les voit et les maudit. Sortent deux ours de la forêt, ils déchirent parmi eux 42 enfants.
Le serpent était nu, plus que tout vivant du champ.
La semence des justes s'échappe, narinière d'or sur narine de porc. Une belle femme sans goût, appétit des justes, le bien seul espoir des criminels l'emporte.
Ils changèrent leurs eaux en sang et fit mourir leurs poissons. Leur terre foisonna de crapauds dans les chambres de leur roi.
Il me baisera des baisers de sa bouche. Oui, tes étreintes sont meilleures que le vin.
Parmi toute bête qui est sur la terre,
toute bête au sabot partagé, fissurée de fissure au sabot,
faisant remonter la rumination, vous la mangerez.
Le chameau, oui, il fait remonter la rumination,
mais son sabot n'est pas partagé,
il est contaminé pour vous.
Le porc, oui, son sabot est partagé, il est fissuré de fissure au sabot, mais il ne rumine pas de rumination.
Il est contaminé pour vous.
Tout ce qui n'est pas nageoire écaille dans les mers, dans les fleuves, dans toute la foison des eaux et parmi tous les êtres vivants dans les eaux.
Ils seront en abjection pour vous.
Tout ce qui est sans nageoire écaille dans les eaux est en abjection pour vous.
Et que personne ne l'oublie.
Être le cul dans le beurre, c'est pas toujours non plus une solution.